rencontre avec nos évêques.
Thibaut de Tuile, bonjour, bienvenue dans notre émission de rencontre périodique avec l'un des évêques de notre région. Et nous avons la chance, pendant ce mois de décembre, de partir à la rencontre, de monter dans le nord de notre région, à la rencontre du nouvel évêque du diocèse de Rodez et Vavre, Monseigneur Luc Meyer. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Thibaut, bonjour chers auditeurs.
Merci de m'accueillir dans votre bureau pour cette série de rencontres que nous allons pouvoir suivre pendant tout ce mois de décembre. Il m'a semblé important que nous puissions faire un peu mieux connaissance de vous personnellement, parce que les auditeurs ont pu vous entendre à plusieurs occasions déjà, notamment celui de votre ordination, et puis aussi d'autres émissions qui ont été organisées par Radio Présence, mais on ne vous connaît peut-être pas vraiment, en tout cas certainement vos diocésains à Rodez et dans l'Aveyron, oui, mais dans le reste de la région, non. Et on gagne évidemment à connaître les évêques de notre région. Alors d'où êtes-vous? D'où venez-vous? Comment êtes-vous né à la foi? Qu'est-ce que c'est que ce diocèse de Laval, la Mayenne? Ce mot Mayenne, que dit-il à nos auditeurs aujourd'hui?
Alors c'est vrai que pour les auditeurs, c'est le Grand Nord. C'est au-dessus de la Loire.
Oui, c'est au-dessus de Tulle. Enfin.
C'est dans les pays de la Loire.
Oui.
Et en fait, je ne suis pas Mayennais d'origine, puisque je suis né en Basse-Normandie, dans l'Orne. Et c'est là que j'ai passé mon enfance, dans une petite école d'une petite commune de 1000 habitants, commune rurale, à côté de Bagnoles de l'Orne, juste à la limite de la Mayenne. Mon papa était breton, ma maman était normande, et mes grands-parents étaient des gens de la terre. Mes grands-parents maternels avaient une petite ferme, ils ont élevé 8 enfants, il y en a 2 qui sont morts en bas âge, 12 hectares. Et ils ont traversé la guerre avec ça, et l'électricité est arrivée, bien sûr, après la guerre. Et puis, mes grands-parents paternels étaient plutôt dans des métiers très différents. Mon grand-père a été jardinier, il a été meunier, il a eu une vie finalement assez difficile. Et c'est comme ça, moi, que j'ai beaucoup de vénération aussi pour les gens de la terre et les gens qui ont des difficultés parfois dans leur métier. Alors je suis d'une famille où il y a des agriculteurs, grands-parents, oncles, des enseignants, alors il y a beaucoup d'enseignants dans ma famille, et puis aussi des prêtres, puisque je suis le 4e prêtre de la famille en 100 ans.
Ah oui, tout de même, c'est beau. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été travaillé, qui a été cultivé au-delà de la terre. Cette foi a été cultivée dans notre famille.
Alors, du côté de ma maman, du côté de mon papa, on pourrait dire que c'est un peu plus contrasté dans les engagements et même dans la foi. Mais du côté de ma maman, c'est vrai que j'ai un oncle qui était prêtre, un grand-oncle qui était prêtre et un cousin de mon grand-père qui était prêtre. Et ils ont eu chacun leur propre style. Il y en avait un qui était en soutane, il y en avait un qui était en clergyman, il y en avait un qui était en chemise à carreaux et en blouson.
Et alors, quelle est votre inspiration aujourd'hui?
Et alors, il y a un moment où j'ai connu les trois.
Oui.
Je crois que les trois ont été fidèles jusqu'au bout. Et pour les trois, j'ai beaucoup d'admiration, parce que chacun à son époque, avec son style de vie, je crois qu'il a été le mieux possible, je le pense, hein, un témoin de l'amour du Seigneur. Et il a essayé de construire, d'aider à vivre des communautés chrétiennes dans des styles très différents. Mais ça, c'est pas gênant, ça. Ce qui compte, c'est l'amour de l'Église.
Et ils vous ont transmis, eux, ou votre mère, cet amour de l'Église?
Alors, cet amour de l'Église, je crois qu'il est passé d'abord par mes parents. Donc, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mes parents, qui étaient des instituteurs, et qui, comme instituteurs, m'ont donné le goût et la passion de l'éducation. J'ai toujours entendu mes parents regarder les enfants de l'école avec un regard plein d'espérance, un regard positif. Donc, dans la diversité des origines sociales, des comportements, des capacités scolaires, chaque enfant était unique. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était la façon dont mes parents notaient les dessins des enfants. Donc on avait des grands radiateurs tout plats des années 70 avant le choc pétrolier, avec des grosses déperditions de chaleur, et ils étaient en métal. Et donc quand il s'agissait de noter les dessins, mes parents se mettaient toujours tous les deux pour regarder les dessins et puis parler des dessins ensemble. Avec des aimants, on aimantait les dessins sur le radiateur. Et puis ils regardaient les dessins. Et moi, je les ai entendus bien des fois commenter les dessins des enfants et essayer de comprendre de l'intérieur pourquoi un enfant dessinait comme ça, quelle couleur il utilisait, est-ce qu'il y avait une perspective, est-ce que c'était un ciel noir, un ciel plutôt ouvert. Enfin, et c'était assez extraordinaire de les entendre avec des mots d'instituteurs primaires et une maturité de grands universitaires qui savaient ce que c'est que l'âme d'un enfant.
Donc ils avaient vraiment ce souci d'apprendre, ce souci de transmettre qu'ils vous ont transmis
Alors moi, ça m'a posé en tout cas une chose très importante au fond de mon cœur, c'est que aimer quelqu'un, c'est l'aider à devenir lui-même, c'est l'aider à grandir, c'est croire en son avenir. Et ça, je pense que c'est le principal bénéfice de l'éducation de mes parents, qui m'ont toujours laissé libre religieusement. Quand j'étais petit, il n'y avait pas la prière à la maison. Et puis à un moment, mon papa m'a dit, tu sais, tu serais bien que tu apprennes à prier tout seul. Tu as une chambre. Eh bien, quand tu fermes la porte, tu peux prier tous les soirs et tous les matins. Puis il m'avait donné quelques petites choses pour le faire. Il n'a jamais contrôlé si je le faisais. Et donc j'ai fait l'expérience qu'on me faisait confiance. Et faisant l'expérience qu'on me faisait confiance, j'ai fait l'expérience d'être fidèle et aussi d'être infidèle. Et donc de revenir vers le Seigneur en disant « Ah oui, maintenant j'ai 9 ans et demi, mais à 8 ans et demi, je m'étais dit que vers toi, Seigneur, je veux revenir, je vais essayer de te donner une place tous les matins, tous les soirs. » Et ce dialogue intérieur, il a été facilité dans mon éducation par un grand professionnalisme éducatif de mes parents. Ce qui fait que très naturellement, en grandissant, j'ai pas eu d'abord la vocation de prêtre, j'ai eu la vocation d'enseignant.
Vous avez commencé... Enfin, vous avez souhaité d'abord aller vers cette profession d'enseignant. Elle a été ancrée en vous tout de suite.
J'ai fait des études de mathématiques jusqu'au baccalauréat. J'étais un très bon matheux. Et puis j'avais fait du latin et du grec dès la classe de 4e. Et en fait, j'étais assez passionné par la langue française et par la langue tout court. Si bien que quand j'ai eu passé mon bac C, un bac de mathématiques à l'époque... Moi, j'ai dit, je vais faire des études de lettres. Alors, tous mes copains, mes profs étaient fous en disant, il faut faire maths sup,
c'est que ce virage,
ingénieur. Voilà, mais j'ai dit, mais le but, c'est pas d'être ingénieur ni de faire maths sup. Le but, c'est de faire ce qui me plaît. Moi, je me sens attiré pour faire des études de lettres. Et donc, j'ai fait des études de lettres. J'ai eu la chance aussi de faire de l'hébreu dès la première année, puisqu'il n'y avait pas loin une faculté de théologie. Donc, j'ai fait de l'hébreu. Et puis, je me suis spécialisé en latin, en grec et en grammaire française.
Donc, lettres classiques.
Lettres classiques. Et puis, beaucoup de choses autour de la lexicologie, de la grammaire, de la stylistique, de la rhétorique. Si bien qu'à l'âge de 22 ans, on m'a proposé un poste d'assistant dans une université parce qu'ils ne trouvaient pas un professeur agrégé. Et puis, moi, j'étais en train de préparer plein de diplômes. Et donc, on m'a dit, est-ce que vous voulez rendre service, remplacer ? On n'a trouvé personne. Et je me suis retrouvé avec des élèves qui avaient 18 ans, moi j'en avais 22, et voilà. Et puis en même temps, j'enseignais à mi-temps dans un collège et puis un lycée.
Mais déjà, le goût, la facilité ?
Et alors, j'étais vraiment passionné par ce que j'enseignais, et puis petit à petit, j'ai été passionné par ce à qui j'enseignais. Ça s'est passé en 3 ou 4 ans. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la matière que j'enseignais, mais que j'étais encore plus intéressé par le devenir de mes étudiants et que ce qui sans doute me rendrait heureux toute ma vie, c'était la relation par laquelle m'arrivait plus de nouveau que par les livres, que c'était le souci de la croissance de l'autre. Et là, c'est reposer la question du ministère de prêtre.
Est-ce que vous auriez pu devenir psychologue scolaire ?
J'aurais pu devenir psychologue scolaire, j'aurais pu devenir... j'ai attendu qu'on me propose un poste à l'université pour le refuser. Donc à l'époque, je préparais un doctorat et puis j'ai dit, puisqu'on me propose un poste que je pourrais le faire, je dis non. Et c'est à ce moment-là...
Et vous dites, c'est reposer la question.
Oui, c'est reposer la question parce que quand j'étais jeune, à 4-5 ans, il y a eu la question de la vocation.
Oui.
Après, quand je suis devenu collégien, elle était là, mais je ne voulais pas trop y penser, lycée non plus. Et puis, c'est pendant mes études universitaires que là, évidemment, ça a été une question assez prégnante. Je n'aimais pas entendre parler du mot séminariste. Dans une conversation, ça me hérissait le poil parce que probablement que c'était un peu trop, ça me touchait de trop près, donc je ne voulais pas en parler. Puis je crois qu'il y a deux ou trois choses qui ont compté pendant mes études. D'une part, la nature de mes études, puisque à partir de la maîtrise, j'ai travaillé sur les pères de l'Église. Donc j'ai fait des traductions de textes grecs de Saint Grégoire de Nice, qui est un père cappadocien du IVe siècle. La Cappadoce, c'est en Turquie. Et qui a écrit des choses magnifiques. Donc j'ai traduit des homélies grecques de Grégoire de Nice. Et puis après, j'ai continué à la Sorbonne. Et là, en troisième cycle, j'ai traduit des homélies grecques de Jean Chrysostome sur l'Épître aux Éphésiens. Et tout ça, évidemment, ça me faisait découvrir le dialogue que les théologiens et les saints des premiers siècles ont entretenu avec la société païenne. Donc c'était assez important.
Donc c'était une découverte de l'intérieur des textes qui petit à petit aurait fait réémerger en vous cette vocation.
Ça n'aurait sans doute pas été jusqu'au bout s'il n'y avait pas eu, et deuxième chose, les amitiés. Ouais. Et donc j'aime bien parler de mes amitiés inoxydables de l'université, puisque aujourd'hui, 36 ans après, j'ai toujours de très bons amis avec qui on a fait nos premières années d'études universitaires. Et je crois beaucoup que l'amitié, la relation, la joie partagée, les soucis partagés, dépassés ensemble, ça contribue beaucoup à un support humain pour notre vocation. Et nos communautés chrétiennes ne peuvent pas être que des communautés de foi et de gens qui prient ensemble le dimanche. Ça doit être des communautés fraternelles où on se connaît, on se soutient, on s'apprécie.
Merci, merci pour ce premier échange avec vous. On commence à faire connaissance, on arrive à l'aube de votre vocation dont nous parlerons la semaine prochaine. Merci Monseigneur.
À bientôt.
Rencontre avec nos évêques.